Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui la méditation de l'évangile de Jean au chapitre 2, les versets 1 à 11.
Le troisième jour, il eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ses noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux servantes, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées au rite de purification des Juifs. Elles contenaient chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit aux servants, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin, comme il en ignorait la provenance, tandis que les servants la connaissaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Thank you.
Le mariage de Cana est si connu que nous n'écoutons guère son récit. Nous savons que c'est le premier miracle de Jésus, que c'est un des rares passages bibliques où Marie agit. Et souvent, on regrette de ne pas avoir goûté ce vin de noces particulièrement réussi. Que vient faire ce mariage dans le ministère de Jésus? Il apparaît comme une pause sur la route de Jérusalem, où Jésus se rend pour la Pâque, selon le verset 13. On a presque l'impression que c'est Marie qui est invitée au verset 2, et que Jésus la suit avec ses disciples, qu'il vient de recruter au chapitre précédent. Des disciples qui le connaissent à peine. J'imagine Jésus assis à l'ombre, écoutant les conversations en grignotant un plat de fête. Personne ne fait attention à lui. Jésus se repose et se réjouit sans doute pour les mariés. Cet instant de tranquillité est interrompu par Marie au verset 4. Ils n'ont plus de vin. À partir de là, l'évangile, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle de la part de Dieu, rayonne dans au moins trois directions que je vous propose de méditer ce jour. D'abord, le mariage de Cana est une histoire sur la confiance en Dieu. Ensuite, Jésus ne nous enferme pas dans une religion figée. Enfin, la gloire de Jésus s'est révélée pour la première fois dans ce mariage. Premier point, Cana est un récit sur la confiance en Dieu et en Jésus notre Sauveur. Pourtant, le verset 4 a de quoi doucher tout enthousiasme. Non seulement Jésus accueille Marie froidement en l'appelant « femme » et non pas « maman », mais en plus il lui reproche de le mêler à une affaire qui ne le concerne pas. Qu'avons-nous en commun en cette affaire ? En tant que maman, je ne suis pas sûre que j'aurais apprécié le temps de Jésus. Et c'est là que Marie est un modèle. Elle ne se laisse nullement vexer. Avait-elle été en cuisine pour donner un coup de main? En tout cas, elle a entendu les serviteurs s'inquiéter de la descente trop rapide des réserves de vin. Elle en parle à son fils, car elle sait qu'il peut faire quelque chose. Quoi? Elle ne sait pas. Mais Jésus ne laissera pas ce mariage se gâcher. Malgré la réponse cinglante de son fils, Marie encourage les serviteurs à la confiance. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est cette confiance totale de Marie qui déplace Jésus. Même si l'heure n'est pas venue, c'est-à-dire que c'est trop tôt, que Jésus n'avait pas prévu de se révéler si vite. Jésus ne peut pas décevoir la confiance de sa mère, ni celle des serviteurs. Car les serviteurs ont confiance aussi. Sur l'invitation de Jésus, ils remplissent les jarres destinées aux purifications à ras-bord, dit le verset 8. De sorte qu'il y a ensuite abondance de vin. S'ils avaient rempli à moitié, en se disant que c'était une idée idiote, ou que ce n'était pas le moment de se laver les mains, ou que les vases allaient être trop lourds, le miracle aurait été amoindri. Cela doit nous servir d'instruction. Quand Jésus nous suggère de faire quelque chose pour lui, il ne nous dit pas où il veut nous mener. Il nous demande notre confiance. Le résultat dépend en partie de notre engagement.
Thank you.
Le deuxième enseignement de ce récit, c'est que Jésus ne nous enferme pas dans une religion figée. Dans la première partie du mariage, le vin a été bu. Il devait donc y avoir des amphores vides. Or, Jésus ne les réutilise pas. Il fait chercher des objets apparemment inappropriés. Verset 6, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. En effet, dans la tradition juive, le lavage des pieds et des mains est un geste rituel essentiel. Or, Jésus détourne ces objets de leur fonction pour les remplir de vin. Outre qu'on pourrait s'interroger sur l'hygiène de ce réemploi, un esprit religieux pourrait reprocher à Jésus de ne pas respecter la tradition. Jésus souligne ainsi que la religion est au service de l'homme, et pas l'inverse. De même que le roi David et ses soldats affamés avaient mangé les pains sacrés réservés aux prêtres, dans 1 Samuel chapitre 21, de même, Jésus estime qu'il est prioritaire de donner du vin aux invités du mariage plutôt que de respecter l'usage traditionnel des vases pour le lavage des mains. De même, la fonction de nos liturgies, des objets du culte, c'est de nous relier à Dieu, de faire mémoire de son amour, de nous aider à être en communion les uns avec les autres. Les objets ne sont pas premiers. Ils ne sont pas sacrés en eux-mêmes. L'orgue, les bougies et même le pain et le vin n'ont de sens que s'ils soutiennent notre foi. Le mariage de Cana manquait de vin. Les vases de purification ont reçu un usage nouveau pour la joie des hommes et pour la gloire du Messie. Et cela nous amène au dernier point. Le verset 11 tire en effet cette morale des noces de Cana. Ce fut le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur confiance en lui. L'indication de date donnée par l'évangéliste est significative. Les noces de Cana ont lieu le troisième jour, dit le verset 1. Je reprends ici l'analyse de la pasteur Isabelle Alves. C'est bien sûr le troisième jour après le baptême de Jésus selon l'évangile de Jean. Mais il y a d'autres troisièmes jours dans la parole. Dans Exode 19, Dieu se révèle sur le mont Sinaï le troisième jour. Jésus ressuscite le troisième jour. Ainsi, les noces de Cana font clairement partie des récits qui révèlent la divinité de Jésus. Je trouve très réconfortant que Jésus commence à révéler sa divinité en donnant de la joie en abondance. Pensez donc. Au verset 6, on nous dit que chaque jarre contient 2 ou 3 mesures de 40 litres. Pour les 6 jarres utilisées, cela fait un total d'au moins 480 litres de vin. Même en plusieurs jours de fête, il y a de quoi émécher l'assistance. Qui a dit que le christianisme est une religion de privation et de mine revêche? C'est bien la surabondance du royaume à venir du Christ qui est derrière le miracle de Cana. C'est dire aussi les richesses de la grâce qui nous est offerte aujourd'hui. Sachons y puiser. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Si nous les hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, Dieu nous donnera son esprit et sa paix si nous les lui demandons. Quant au vin, ce n'est pas un hasard si Jésus nous le donne en mémoire de lui à la scène. Il est à la fois rappel du sang versé sur la croix pour nous sauver et promesse de la joie donnée par Dieu dès aujourd'hui et pour l'éternité. Que cette joie d'être aimé de Dieu vous soutienne, quelles que soient vos circonstances actuelles. Amen.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.